A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Les examens sont très invasifs. Combien de temps on passe allongé, les cuisses écartées, le sexe nu devant des gens qu'on ne connaît pas? C'est hyper difficile après de se dire qu'il faut recréer cette scène, mais pour avoir du plaisir.
Bonjour et bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui libère la parole sur les parcours d'infertilité et de PMA chaque mercredi. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice de ce podcast, et je vous parle depuis Boston, aux États-Unis, là où je vis. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de Bordeaux à la rencontre de Céline, bénévole au sein de l'association Femmes Endo & Co, reconvertie sexologue-thérapeute à la suite de son parcours de PMA. Entrée en AMP du fait de son endométriose et de sa faible réserve ovarienne, Céline accompagne désormais au quotidien les couples en recherche d'équilibre et s'est spécialisée dans l'accompagnement des femmes souffrant d'endométriose ainsi que de cancer. Nous discutons de son parcours, mais aussi de la sexualité, et je vous préviens, cet épisode est très riche en enseignements. Nous abordons notamment des questions que vous nous avez posées sur Instagram, parmi lesquelles typiquement comment se déroule l'accompagnement avec un sexologue? Comment savoir si vous en avez besoin? La PMA change-t-elle vraiment la sexualité quotidienne? Comment gérer le fait d'avoir un rapport programmé? Et surtout, comment retrouver son équilibre individuel et au sein du couple? Dans cet épisode, Céline vous offre une multitude d'outils et de réponses qui, je l'espère, vous seront utiles. Alors sans plus tarder, voici ma rencontre avec Céline. Bonjour Céline et bienvenue sur le podcast. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation à venir nous parler de ton histoire, mais aussi de ton métier de sexologue. J'espère que tu vas bien. D'où est-ce que tu nous parles ?
Bonjour Anne-Flore, je suis ravie d'être invitée aujourd'hui également. Je vais bien. Je te parle depuis mon cabinet à Bordeaux. Mon cabinet, voilà, de sexologue-thérapeute. Voilà.
Super. Ok. Très bien. Alors, avant de rentrer dans cette conversation sur sexualité, sur l'endométriose, etc., j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton histoire. Tu t'es lancée toi-même, donc, dans les essais bébés avec ton compagnon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre projet bébé et comment est-ce que ça s'est réalisé?
Oui. Alors, ça remonte déjà à une dizaine d'années. Donc là, aujourd'hui, j'ai 40 ans, aux alentours de la trentaine. Donc, ça faisait déjà 5 ans qu'on était mariés. On a pas mal voyagé, enfin, profité de la vie, tout ça. Puis, on s'est dit qu'on aimerait bien se poser et avoir un enfant. Et donc, j'avais arrêté la pilule. Et bon, j'ai commencé à faire un peu des... J'avais un suivi gynécologique quand même un peu déjà, on va dire, un peu plus haut que la normale parce que j'avais régulièrement des soucis... j'avais des règles douloureuses, j'avais déjà eu des kystes, j'ai changé plein de fois de pilule parce que ça me convenait pas. Voilà, j'avais aussi une petite opération au sein parce que j'avais eu un abcès. Enfin voilà, donc j'avais un suivi gynéco un peu rapproché. D'accord. Et puis en arrêtant la pilule, au bout de quelques mois, en fait, justement, je refais un bilan chez le gynéco. Et là, j'avais un gros kyste, en fait, sur l'ovaire. Et donc, il me dit, voilà, on va le surveiller pour être sûr que ça va pas dégénérer, quoi. Entre-temps, on déménage. Donc, on quitte la région parisienne, on s'installe à Bordeaux. J'essaye de trouver rapidement un gynéco justement pour faire le suivi et j'arrive donc avec ce nouveau gynéco aux alentours de Bordeaux. J'arrive avec mes échographies, enfin voilà mon histoire et donc à l'examen il me dit effectivement le kyste est gros. Puis je soupçonne par rapport aux symptômes que vous m'avez déjà décrits de l'endométriose et je n'avais voilà jamais entendu ce nom jusque-là.
C'est clair, même il y a 7 ans, enfin il y a 7-10 ans, enfin c'était pas aussi t'avais pas des campagnes de sensibilisation sur ce que c'était non plus autant que maintenant, quoi.
Exactement, mais ça c'était en 2011 et du coup il me dit bah je vais vous opérer rapidement parce que le kyste est gros quand même et vous risquez d'avoir une torsion de l'ovaire, donc c'est voilà, ça peut...
Et puis avec un kyste comme ça, les douleurs devaient être encore plus importantes pendant ta vie, non?
Oui. Et ben, enfin, ça me faisait mal tout le temps. C'était pesant, en fait. Voilà. 3 jours après, il m'opère. Ça a été vite.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, moi, j'avais pas senti l'urgence comme ça. Mais,
ouais, bien sûr.
Voilà. Et donc, au réveil, il me dit, bah, effectivement, c'est bien de l'endométriose. Je vous ai retiré pas mal de lésions, de nodules. Voilà, il me décrit toutes les atteintes, donc au niveau de l'utérus, des trompes, de la vessie, de l'ovaire, enfin des ovaires même.
Ah ouais.
Donc, OK. Donc ça c'est un peu le premier coup de massue quoi. Ben... Et il me dit bon allez, enfin il était quand même assez positif, on va vous aider, vous inquiétez pas pour faire un joli bébé tout ça. Bon, donc moi très confiante jusque là, je me posais pas trop de questions sur l'accompagnement du corps médical quoi. Donc on y va, donc je commence des traitements un peu pour booster la fertilité, enfin l'ovulation. Et sauf qu'en fait, mon corps réagit pas bien à ces traitements-là, et au lieu de faire des jolis follicules, à chaque fois ça dégénère en kystes. Donc rebelote, j'ai de nouveau des kystes sur le même ovaire en plus. Et voilà. Et donc 10 mois après la première opération, je repasse au bloc opératoire pour une deuxième chirurgie où en fait ils constatent que l'endométriose a flambé en 10 mois de temps. Ça a été j'avais plus de lésions d'endométriose que la première fois et voilà, et donc ça a abîmé fortement l'ovaire. Donc voilà, donc lui il voulait persister dans les traitements par voie orale, enfin voilà, de stimulation, puis passer aux injections, sachant que lui c'était pas non plus un spécialiste de la fertilité ou de la PMA. Donc là j'ai commencé un petit peu à me dire, est-ce que c'est la bonne chose pour mon corps, enfin voilà. Ça a commencé à 2 chirurgies en 10 mois, ça fait beaucoup même si j'étais encore jeune. Bon, et puis en fait, j'ai la chance dans ma famille d'avoir quelqu'un donc qui est gynéco et qui m'a dit, non écoute, là il faut, avec l'endométriose et tes 2 chirurgies, va directement dans un centre de PMA.
Ouais, avoir des spécialistes.
Où ils sont vraiment, voilà, spécialistes qui sont réellement compétents et qui vont t'accompagner dans ce parcours-là. Voilà, faut pas prendre n'importe quoi, et avec l'endométriose et avec les chirurgies. Donc du coup, je suis arrivée au centre de PMA de Jean Villard, qui est à côté de Bordeaux. Et là, quand je suis arrivée, donc j'avais 32 ans. Donc voilà, ça. J'étais pas, voilà, 32 ans, ça va encore, on va dire. et malgré tout, là, le gynéco que j'ai vu m'a dit, bah, écoutez, on va pas tarder, faut faire tous les examens. Donc, il y a un certain nombre d'examens à faire pour les fécondations in vitro, mais il m'a dit, on passe directement en stimulation, enfin, en fécondation in vitro, on fait pas de stimulation, on fait pas d'insémination, on fait la FIV directe parce que, en fait, ma réserve ovarienne avait drastiquement chuté. Voilà, pour celles qui nous écoutent et qui sont au parcours PMA, qui connaissent tout ça, j'avais une AMH, donc qui est le curseur, qui donne un peu la réserve ovarienne. Elle était à 0,50, ce qui est extrêmement faible, qui en fait c'est on est considéré comme préménopausé voire ménopausé quand on a une réserve ovarienne aussi basse. Ouais. Donc en gros, il fallait faire vite pour essayer de stimuler le peu qui restait. Voilà.
D'accord.
Voilà. Sachant qu'avant mes 2 opérations, j'avais une AMH qui était plutôt correcte, on va dire. Elle était dans la moyenne basse, mais la moyenne quand même, des femmes fertiles.
C'est dingue. En moins d'un an, du coup, ça a chuté.
Ouais. En un an et demi, en fait, les traitements que j'ai eus qui m'ont stimulé l'ovulation, en fait, ont épuisé aussi, voilà, artificiellement, les kystes, et surtout les 2 opérations sur l'ovaire ont fortement abîmé ma réserve ovarienne sur un des ovaires, qui n'était plus fonctionnel en fait. Il y avait un résidu de mon ovaire, mais il était quasiment plus visible aux examens en fait médicaux. Donc il fallait faire qu'avec un seul ovaire et avec une réserve ovarienne basse, plus l'endométriose qui aime pas trop tout ce qui est hormonal, parce que du coup ça fait flamber l'endométriose. En 3 mois de temps, j'avais fait tous les examens, on a commencé le protocole FIV à ce moment-là, et en fait il a fallu quasiment le double de temps d'injection pour obtenir 3 pauvres petits follicules. Oui. Donc ça a été super long. En général, il faut une dizaine de jours, puis après on déclenche avec une injection l'ovulation pour être prélevée. Et là, en fait, j'ai eu quasiment 20 jours, 3 semaines d'injection. Donc j'avais un ventre énorme, j'en pouvais plus, là j'étais pleine d'hormones.
Voilà,
physiquement. Puis bah tous les 2-3 jours, il faut aller au laboratoire, faire la prise de sang, faire l'échographie, voir où c'en est. Donc voilà, on est vraiment focus que là-dessus. Et puis voilà, donc il y a eu la ponction, le prélèvement conjointement de mon mari de spermatozoïdes. Alors heureusement, de son côté, lui, tout allait bien. Il y avait pas de problème, donc c'était déjà une bonne chose.
Ouais, bien sûr.
Et à l'issue, donc on a donc le labo nous a rappelé, je crois que c'était 48 heures après, pour nous dire qu'ils avaient obtenu un embryon. Et donc ils pouvaient transférer un embryon. Donc en gros, c'était un one shot, il y avait pas de surplus, quoi. Donc j'ai eu le transfert embryonnaire. J'avoue que je flippais en me disant on y va, il y en a qu'un. On va serrer fort les doigts.
Croiser les doigts.
Alors serrer les cuisses, apparemment ça servait pas à grand-chose, parce que pour l'anecdote, j'avais posé la question à la gynéco qui m'a fait le transfert, mais faut que je reste allongée, comment ça se passe? Elle me dit non, vous continuez votre vie, de toute façon, il va pas tomber, hein, donc s'il doit s'accrocher, il s'accrochera, c'est pas en faisant le poirier ou je ne sais quoi que, voilà.
Mais des fois, c'est dans la tête aussi, tu vois, des fois, t'as besoin de savoir que t'as fait le petit truc en plus.
Exactement. Et du coup, en fait, ça, c'était juste avant les vacances de Noël. On est remonté en voiture en région parisienne pour fêter les vacances de Noël les fêtes de Noël avec ma famille, enfin nos familles. Et après, on avait décidé du coup pour couper un peu tout ça, parce que c'était quand même assez assez énergivore et chronophage et puis stressant. On est parti la semaine du jour de l'an en Guadeloupe. Donc on a pris l'avion. Bon, j'avais bien demandé au gynéco, vous êtes sûr et tout. Il me dit oui, même discours. S'il doit s'accrocher, il s'accroche, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai le droit de boire un peu de rhum? Il m'avait dit pareil, avec modération. Mais bon, s'il doit s'accrocher, ça s'accrochera, vous inquiétez pas. Donc voilà, on est parti. On a profité. Alors effectivement, de toute façon, avec les hormones, j'étais un peu fatiguée, j'avais un peu mal au ventre. J'ai une mycose d'ailleurs avec le transfert, le jet lag, tout ça, la fatigue. Donc voilà, mais j'essayais de ne pas mettre la pression et de profiter quand même. Et du coup, en plus, ça a permis de faire passer ces 15 longs jours d'attente avant de savoir si ça avait pris assez vite, finalement. Et donc on est revenu, c'était en début d'année, donc 2013. Je me refuse de faire un test pipi. Je vais au laboratoire faire ma prise de sang, parce que sais que des fois les tests pipi, ça peut être surtout quand on est en PMA, en fait, on est tellement sous hormones déjà.
Oui, c'est vrai, tu as des faux positifs.
Exactement, parce que l'ovitrel, c'est justement quelque chose qui déclenche l'ovulation, tout ça, et on a cet état de grossesse qui est faux, en fait. Donc j'en reparlerai après, mais ça m'est arrivé par la suite aussi d'être parce que j'ai refait une stimulation par la suite. Enfin bref. Donc je voulais pas faire le test pipi, je voulais pas avoir un faux positif, je voulais avoir vraiment la prise de sang qui me dit si oui ou non. Voilà, j'y vais. Voilà, je reviens à la maison. Voilà, et puis c'est assez rapide dans la journée, on a les résultats. Et le labo où j'allais, donc ça faisait à peu près 2 ou 3 ans qu'ils me voyaient tous les 4 matins, donc ils savaient très bien pourquoi j'étais là. Et donc du coup, quand j'y retourne, je suis accueillie par le directeur du labo. Donc là, je me décompose un peu, parce que je me dis merde.
Ils ont trouvé quelque chose qui n'allait pas.
Ou si c'est le boss, en gros, il veut être là pour pour m'accompagner dans ce dur moment. Je savais pas trop, j'ai eu ce quart de seconde très très pénible. Et là, il me regarde, il me fait « ça ne pouvait pas être plus positif, vous êtes génial. Bien, c'est dans les taux et tout. » Oh là là, là je m'effondre, je m'accroche au comptoir pour, ouais, pour pas tomber, mais j'étais tellement bouleversée.
Bah ouais, bien sûr.
J'y croyais pas en fait, voilà, j'étais tellement, je me dis « c'est pas possible ». Voilà, il y en avait qu'un. Bon, voilà, donc je reviens à la maison, j'étais en train de pleurer. Mon mari, du coup, il me dit, mais c'est bon, c'est pas bon. Enfin, voilà. Forcément, j'étais en pleurs. Donc j'ai dit, si, c'est bon. Voilà. Bah, de là commence la nouvelle aventure du. Il faut qu'il s'accroche. En fait, quand on est enceinte par PMA, on continue d'être suivi pendant au moins les 3 premiers mois ouais. en PMA. Pas en obstétrique classique. Et donc là, je retourne voir le gynéco qui m'a suivi pour la FIV. Mmh. Super content. Alors, la première échographie, qui n'est pas du tout l'échographie de datation classique dans une grossesse normale, c'est vraiment là pour s'assurer effectivement que l'embryon il est implanté correctement, qu'il n'y a pas une grossesse extra-utérine qui se développe, etc. Mmh. Donc, on voit quasiment rien, mais on voit, enfin, j'ai quand même gardé la photo, c'est un petit grain de riz, minuscule, mais voilà, voir un grain de semoule, je ne sais plus, enfin, vraiment, c'était tout petit.
Mais il est
parce
là.
Qu'on entend même. Mais il est là, c'est ça. Et donc, là, en fait, on commence un autre protocole qui est des injections de progestérone pour justement. Mmh. Stimuler l'implantation, voilà l'accroche exactement. Donc et là quand même à l'issue du rendez-vous il me dit bon je voulais pas vous le dire pendant les injections mais voilà on a fait tout ce qu'on, enfin j'ai fait le protocole au max en gros si ça prenait pas là je pouvais pas faire mieux quoi. Ok, bon.
C'est bizarre qu'on dise ça, parce que je veux dire, tu peux quand même... Enfin, c'est pas parce que ça marche pas la première fois que ça va pas marcher la deuxième, quoi, même avec le même protocole.
Oui, mais enfin, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de... Normalement, on y va crescendo, en
oui,
fait.
D'accord, ouais, il n'avait pas d'autres
Malgré
trucs
dans ce spectacle. Voilà, là, on était au max. Donc, si on recommençait, c'était le même protocole identique. Il n'y avait pas de bonus, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'options supplémentaires. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est vrai que c'est... Et en ayant le max, j'obtenais qu'un seul embryon. Donc, c'est vrai que ça mettait un peu... la pression. Je pense que lui, il était très honnête et sincère dans sa démarche aussi, et c'est ça que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'il m'a pas fait croire non plus que ça allait fonctionner à 100%, parce que des fois, il y a des médecins voilà qui peuvent être tellement positifs, et c'est bien d'être positif, mais que du coup, on peut être trop plein d'espoir, et ça peut être douloureux quand on subit des échecs, du coup, donc... D'avoir quand même quelqu'un qui soit sincère et honnête dans la démarche et dans les résultats qu'on peut attendre, qu'on peut espérer. Voilà, je trouve que
ouais, c'est clair.
C'est mieux.
C'est précieux.
Voilà.
T'as raison.
Voilà, c'est précieux. C'est plus équilibré, plus voilà. Donc voilà, donc c'était parti pour
le plus grand aventure de ta vie.
Ouais, complètement. Et c'était voilà, j'ai vécu une grossesse chouette dans le sens où je savais que pertinemment, ça serait peut-être la seule grossesse que je vivrais, et donc je voulais en savourer chaque moment, même au fond de mon lit, à pas pouvoir me lever, même à par la suite avoir un ventre énorme, prendre du poids, tout ça, c'était pas grave. Mm-hmm. C'était précieux de porter la vie.
Ouais. Tu disais que tu t'étais un peu résolue finalement au fait que tu aurais certainement que tu ne vivrais qu'une grossesse, et je me demandais en fait justement. À quoi ressemblait ton projet famille peut-être après toutes ces découvertes et comment en fait est-ce que tu es arrivée à ce cheminement qui est pas toujours facile en fait de réinventer sa vision de la famille avec laquelle on a grandi, avec laquelle on se construit souvent en grandissant.
Alors c'est vrai que je m'étais pas trop posé de questions sur le fait qu'on aurait peut-être des difficultés à avoir un enfant ou pas. Idéalement, c'est vrai qu'on avait parlé qu'on aurait au moins peut-être 2 enfants, un peu le schéma classique. Et c'est vrai qu'on a fait partie aussi dans notre entourage de ceux qui ont eu un enfant un peu plus tard que les autres, alors par choix déjà, et puis du coup avec les difficultés qu'on a eues. Alors à chaque fois qu'il y a eu des grossesses d'annoncées autour de moi, de nous, moi ça me rendait pas triste, même quand je savais que c'était difficile pour moi. Au contraire, je me disais c'est super, enfin je suis contente qu'il y ait des personnes autour de nous pour qui ça fonctionne. que ça fonctionne vite et que ça fonctionne sans problème. Et voilà, je me réjouissais vraiment pour les autres que ça fonctionne bien, quoi. Moi, alors, ouais, petite précision. En fait, quand à l'issue de ma deuxième opération, là où je travaillais, j'étais en CDD et du coup, c'est arrivé. Mon contrat est arrivé à son terme juste après la deuxième opération et du coup, on s'est posé la question. Enfin, on proposait un autre poste, beaucoup plus intéressant, avec il fallait être énormément disponible. Voilà, sur des amplitudes horaires assez importantes et avec un investissement personnel important et du coup j'ai fait le choix de favoriser du coup le projet bébé après la deuxième opération vu comment ça s'annonçait compliqué et mettre entre parenthèses ma vie professionnelle et vraiment j'ai pu me consacrer à 100% à la FIV, à 100% à ma grossesse et vivre pleinement ce moment-là.
Tu bossais dans quoi à ce moment-là? Du coup, tu n'étais pas sexologue, si?
Exactement. Alors non, je n'étais pas sexologue. Je bossais dans l'urbanisme. En fait, j'ai une formation...
Ah oui, rien à voir.
Voilà, rien à voir. Je bossais dans l'urbanisme de projet à ce moment-là. Et donc voilà, c'était hyper intéressant, très stimulant. Je pense que j'ai vraiment pris conscience que je faisais le choix de favoriser le poste plutôt que la FIV, ça pouvait ça pouvait retarder d'autant plus et peut-être compromettre vraiment mes chances d'avoir un enfant. Donc là, clairement, je ne me voyais pas sans enfant, vraiment pas. Ouais. Ça, c'était pas possible. Donc autant, je pense que j'étais prête à me dire qu'effectivement il y aurait qu'un bébé, mais de ne pas en avoir du tout, ça c'était pas envisageable, quoi. Donc voilà. Donc ça a été vraiment ce cheminement. J'arrête tout et je me consacre à ce projet-là. C'était mon projet en fait. C'était ça.
Ouais. Ok. Ouais. Et alors donc 9 mois plus tard,
oui,
un petit miracle est arrivé.
C'est ça, exactement. Le petit le miracle est arrivé. Ça s'est bien passé jusqu'à l'arrivée, enfin la maternité. Et puis quand on m'a percé la poche des os, le bébé a mal réagi et il a été en détresse cardiaque. Malgré les manipulations pour essayer de le remettre dans une position pour qu'il soit bien, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, on m'a amenée au bloc opératoire pour une césarienne en urgence.
D'accord.
Donc ça non plus, j'avais pas du tout envisagé. Donc ça a été assez violent et pour moi et pour mon mari aussi qui a pas compris ce qui se passait parce qu'on
c'est hyper rapide quoi.
C'est ça. En fait, on a lancé un code rouge et en un quart de seconde, la salle se remplit d'infirmiers, de soignants, médecins, on sait pas trop quoi. Le brancard part au bloc opératoire qui était prêt, donc parce que une dame devait, je crois, accoucher de jumeaux. Et du coup, on lui a pris la place. Et mon mari s'est retrouvé dans le couloir, assis sur une chaise où on lui a dit, vous attendez là.
Vache.
Voilà. Et moi qui hurlais, mais sortez mon bébé, je veux qu'il soit en vie. Enfin, je me disais, mais j'ai pas fait tout ça voilà, c'est ça. Donc, ouvrez-moi en deux, je m'en fous, mais sortez-le, quoi. Comme j'étais déjà sous péridurale, en fait, ils m'ont pas endormi, ils m'ont pas fait une anesthésie générale, mais ils renforcent, en fait, la péridurale, qui te met dans un état,
second, ouais.
Voilà. Alors tu as conscience de ce qui se passe, mais tu ne ressens aucune douleur. Par contre, je sentais quand même les mouvements de mon corps. Donc on sent quand on nous ouvre, quand on nous écarte, quand l'espèce d'aspiration, ça, quand ils sortent le bébé et que tout le corps vient avec. Enfin voilà, ça c'est assez.
Ah, ça doit être super bizarre comme ça.
Assez glauque, voilà. Ouais. mais avec une seule idée en tête, c'est je veux entendre mon bébé pleurer. Voilà, ouais, c'est ça. et c'est ce qui s'est passé. Enfin, instantanément, il a crié. Donc voilà, ils me l'ont mis très rapidement sur moi. Et en même temps, comme on est dans un bloc opératoire, ils le gardent pas parce qu'il fait froid dans un bloc opératoire. Donc, ils le sortent vite. Et du coup, après, il a fait du pot à pot très rapidement avec avec son papa. Et puis, bah, pendant que moi, il me... bah, il s'occupait de...
ouais, de tout refermer, de, voilà, etc., bien sûr.
De tout refermer. Malgré tout, mon mari a pu rentrer dans le bloc opératoire avec avec le bébé pour que je puisse faire un petit bisou avant qu'il reparte. Mais voilà, tout ça, ça s'est passé tellement vite. Des fois, tu sais, tu te demandes si ça s'est vraiment passé comme ça, tellement, ouais, voilà, t'es dans un
tellement
état
ça a été
second,
rapidement que t'as pas eu le temps de réaliser, voilà, quoi.
Ouais. Exactement, d'assimiler, etc. Et c'est quand je me retrouve en salle de réveil que je me dis, bah si, ça y est, j'ai plus mon bébé dans le ventre, mais il est en bonne santé, il est avec son papa, tout va bien, mais j'ai envie de le voir. Et la condition pour sortir de la salle de réveil, c'est que je retrouve de la mobilité dans les jambes. Donc ouais, là, je mets toute ma conviction.
Tu n'attends que ça, bien sûr.
C'est ça, donc j'ordonne à mes jambes de fonctionner vite, de se mettre à bouger pour que je puisse monter en chambre et profiter de mon bébé, quoi. Et là aussi, la maternité, ça a été super parce que mon mari a pu revenir aussi en salle de réveil avec le bébé pour que je fasse un peu de peau à peau moi aussi et faire ce qu'on appelle la tétée d'accueil. Ça m'a reboosté encore plus et voilà, là je voyais le bout du tunnel. Voilà, ça y est, enfin, il était en bonne santé, tout allait bien, il avait pas eu besoin d'aide respiratoire ou quoi au caisse, donc c'était vraiment
super.
Voilà,
c'est un petit garçon ou une petite fille, alors?
Alors, c'est un petit garçon qu'on a appelé Marius. Et jusqu'au dernier moment, en fait, on hésitait entre deux prénoms. Et c'est vraiment au moment où il est sorti qu'on s'est décidé à l'appeler Marius.
C'est devenu évident.
Voilà, exactement. Il y a eu cette évidence-là au moment où, il est sorti. Je voulais juste faire un petit coucou à la maternité du CHU de Pellegrin à Bordeaux parce que je trouve que le service a été au top. Bon, j'y suis restée une semaine parce que du coup, une césarienne, tu restes un peu plus longtemps. Et que le papa... Enfin, les chambres sont hyper bien configurées. Le papa a un vrai lit pour dormir. Tout est fait, enfin, je trouve, pour qu'on reste dans cette petite bulle les premiers jours et vraiment, voilà.
C'est hyper précieux, ouais.
Ouais, c'est vraiment top d'être dans ces conditions-là pour accueillir son nouveau-né.
Bon, super, mais écoute, le message est passé. Mmh. Oui. Et alors, tout ce cheminement, tout ça, en fait, ça t'a amené à Céline 2.0, autant du point de vue personnel et maternité que du point de vue professionnel. Tu me disais, quand on échangeait pour préparer cet épisode, lors du parcours en PMA, l'aspect psychologique et sexologique est complètement mis de côté, et c'est vrai, alors qu'il contribue pourtant... et justement, donc, au bien-être du couple. Alors, qu'est-ce que ça a été, du coup, ce wake-up call, quoi? Ça a été quoi l'élément déclencheur pour enchaîner sur la nouvelle partie de ta vie?
Alors, c'est vrai que dans le protocole PMA, tu as un rendez-vous avec un psy qui est prévu. Voilà, c'est sur la checklist. Enfin, c'est un passage obligé. Donc, on y va en couple. Donc, on parle de notre désir d'enfant. En fait, ils évaluent un peu aussi si tu es prêt à... être dans ce parcours-là et d'envisager aussi d'autres choses, par exemple le don d'ovocytes. Donc c'était mon cas, éventuellement c'était une option, ou l'adoption. Voilà, et à l'issue en fait de ce rendez-vous, tu as validé ton rendez-vous psy et on passe à autre chose, on passe à un autre examen. Pendant les consultations gynéco et les examens, c'est vrai que la dimension purement comment vous vivez les choses, comment va le moral, etc., ça passe un peu à la trappe parce qu'il n'y a pas le temps, c'est très technique en fait. Tout est basé sur la technicité des protocoles pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Même sur l'intimité, effectivement, la sexualité du couple, on n'en parle pas, quoi. Mmh. Alors, dans le cas d'une FIV, c'est sûr que c'est pas le câlin qui va faire le bébé puisque c'est, c'est la FIV. Mais du coup, on ne parle pas non plus. Est-ce que c'est bien de faire un câlin quand même pendant? Est-ce que... c'est vrai on se sent un peu dépossédé du coup de sa sexualité. Et quand on est dans des stimulations simples ou dans des inséminations, où là, en fait, on a des rapports programmés, pour favoriser justement la fécondation, bah là aussi c'est hyper hyper difficile à vivre, quoi, parce que on est un peu obsédé par le calendrier et par la fenêtre de tir qu'on a sur cette période d'ovulation qui est que de quelques heures. Donc tout tourne autour de ça et on oublie le paramètre festif de la sexualité.
Ouais, non, c'est clair.
Voilà. Et puis l'accompagnement même du couple, parce que c'est une vraie épreuve pour le couple de passer par ça, pour le corps, pour les corps. Des fois, voilà, il y a les deux conjoints qui sont atteints, qui doivent suivre aussi des examens et des traitements. Donc, ça met le couple à rude épreuve aussi. Et effectivement, je trouve que l'accompagnement là-dessus est très light. Donc, si on n'a pas des bases solides, on peut, je pense, assez facilement s'éloigner.
Ouais, le couple bat de l'aile, quoi.
Voilà. Ouais. C'était déjà un constat que j'avais fait. Puis, bah, dans les centres de PMA, tu croises énormément de couples, t'échanges avec d'autres couples. Tu vois bien que tout le monde est un peu dans cet état-là de l'objectif bébé, et le reste, ça passe un peu à la trappe. Et donc, il peut y avoir aussi l'effet boomerang quelques temps après. Tu vois, une fois que le projet est abouti ou pas, mais le deuxième effet qui se coule, quoi, qui fait que le couple est passé, t'as oublié ton couple pendant des mois, voire quelques années, le temps de tout ce parcours PMA. Et tout d'un coup,
ouais, voilà, comment on rallume la flamme, bien sûr.
Exactement.
Ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas, mais il n'y a plus cette, bien sûr.
Exactement. Donc ça a été un constat. Et puis la deuxième chose, c'est aussi par rapport à l'endométriose, où pareil, en étant assez en contact avec d'autres femmes atteintes d'endométriose, il y a des associations ou les réseaux sociaux. Là aussi, j'ai constaté que les femmes étaient fortement impactées dans leur intimité, dans leur corps et dans leur zone intime, érogène, et leur sexualité. Et que là aussi, le corps médical, en fait, prenait pas forcément en considération cet aspect-là, et que c'était un peu débrouillez-vous, quoi. Et sauf que on a besoin d'être bien dans son corps, dans son intimité, et aussi dans sa sexualité, pour être épanoui et justement créer un cercle vertueux pour améliorer sa condition déjà pas super avec la pathologie. Donc si on a rajouté une couche en plus en étant amputé de quelque chose qui est agréable, c'est dommage, et puis c'est contre-productif aussi. Donc voilà, il y a eu tous ces questionnements, ce qui a cheminé. Moi, j'avais repris ma carrière où ça en était dans l'urbanisme. Mais pareil, je suis arrivée au bout de quelques années un peu à me dire est-ce que ça fait vraiment sens pour moi ? Et plus je me posais cette question, et moins c'était évident. Parce que je donnais toujours plus pour le travail, mais du coup, je m'oubliais beaucoup plus, et je laissais de côté un peu trop mon état de santé se dégrader. Mmh. Et le corps me rappelait sans cesse que il fallait que je lève le pied et il fallait que je trouve une solution. Voilà. Donc j'avais des crises d'endométriose de plus en plus fortes. Qui me mettaient à terre pendant plusieurs jours. Et qui a engendré une fatigue chronique qui faisait que un jour, je n'ai plus me lever. Enfin, c'était plus possible, en fait.
Burnout.
Burnout. Voilà.
Ouais, physique, j'en ai fait un aussi. Alors je comprends par quoi t'es passée. Ouais.
Voilà. Et ce qui a déclenché aussi, alors j'ai rajouté un petit niveau supplémentaire dans l'état de santé. En fait, il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué un mélanome, et ça a été vraiment, je pense, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et à me dire, je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire
comme pour ça que je veux vivre ma vie, quoi.
Exactement, et vraiment en réfléchissant, j'avais vraiment envie d'apporter. Ce que j'avais, moi, réussi à trouver toute seule, personnellement, c'est-à-dire à ne pas m'oublier en tant que femme, déjà dans mon corps, de pas laisser le corps médical s'approprier mon corps comme étant juste médicalisé, mais voilà, en garder mon intimité et mon entièreté dans mon corps, et surtout garder ou même raviver cette intimité, cette sexualité. Donc je me suis lancée dans une formation en sexologie.
D'accord.
Pour devenir sexologue thérapeute et accompagner les femmes, et plus particulièrement donc celles qui sont atteintes de pathologies comme l'endométriose, ou ça peut être aussi les cancers féminins, ou celles qui n'ont pas de pathologie particulière mais qui ne se sentent pas forcément bien dans leur corps, dans leur intimité, dans leur sexualité. Voilà.
Et tu dis les femmes, c'est pas les couples, c'est surtout les femmes ?
Si, 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 les couples aussi. Donc c'est les femmes et les couples. Mais comme c'est que je me suis assez spécialisée dans ces accompagnements, par exemple, en tant que sexologue, je ne prends pas les hommes seuls pour des pathologies, enfin des pathologies, pour des requêtes plus spécifiques aux hommes. Je les oriente dans ces cas-là sur des confrères ou des consoeurs qui voilà, qui sont plus à même de prendre en charge les hommes seuls. Voilà.
D'accord.
Je prends les couples dans leur globalité, qu'il y ait une pathologie ou pas. Voilà, là, sans problème du tout.
D'accord.
Mais pour le suivi individuel, c'est vraiment sur les femmes que je me suis spécialisée. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots en quoi consiste la formation justement d'un sexologue ?
Alors,
est-ce qu'il y a une école, un diplôme d'État ?
Ouais.
Parce que ma question sous-jacente, ça va être, comme pour beaucoup de spécialistes, comment identifier en fait si un praticien est un vrai praticien comment le choisir en fait, le praticien qui va nous suivre ?
Alors, pour devenir sexologue, il y a plusieurs voies. Alors, il n'y a pas de diplôme d'État. C'est pas un statut qui est protégé, le titre de sexologue. Il y a trois voies différentes. Il y a ceux qui sont issus du corps médical, médecins, gynéco, sages-femmes, qui peuvent suivre en fait un diplôme universitaire en médecine avec une spécialité en sexologie, mais qui vont avoir une approche beaucoup plus organique et médicale de la sexologie. Donc eux, ils peuvent par exemple prescrire des choses. Je pense notamment pour les hommes qui auraient des problèmes d'érection, ils peuvent prescrire le Viagra. Ensuite, il y a les psychologues, cliniciens, qui peuvent aussi avoir une spécialité de sexologue. Donc là, c'est à l'issue aussi de leur de leur formation. Ils peuvent avoir un master de spécialisation sexologie. Et il y a la troisième voie, donc pour ceux qui n'ont ni du corps médical ni psychologue, où là il y a plusieurs instituts ou écoles qui proposent des formations en sexologie. Donc j'ai moi-même suivi ma formation à l'Institut de sexologie. Donc c'est une formation qui est sur 2 ans et c'est une approche donc moins organique puisque nous ne sommes pas médecins. Donc nous on n'aura pas d'objectif de prescription, mais on va avoir une approche plus globale et plus, on va dire, humaniste. On prend la personne dans son entièreté, donc avec son vécu, son histoire sexuelle, comment elle a débuté sa sexualité, etc. Donc on va pas uniquement regarder les symptômes de la personne. Par exemple, si ça peut être des douleurs à la pénétration, on va chercher au-delà en fait de ce qui va être organique pour essayer de à la fois de comprendre les mécanismes, par exemple, de la douleur, si ça peut être lié à un traumatisme plus ancien, et puis essayer de trouver des chemins thérapeutiques qui vont être plus globalisants sur le long terme. Voilà, pour que la personne puisse retrouver son équilibre à tous les niveaux, et pas que uniquement d'un point de vue de sa sexualité.
D'accord.
Donc s'ils viennent en couple, voilà, ça va être retrouvé aussi sur la communication. Parfois, les couples vont venir pour un symptôme, entre guillemets, de sexualité un peu en berne, et puis au fil des questions, au fil des rendez-vous, finalement, on va vraiment mettre de côté la question de la sexualité pour vraiment se concentrer sur plutôt la communication, l'organisation du mode de vie, etc. Pour revenir après à la sexualité. Mais en fait, on va se rendre compte que pour que la sexualité fonctionne, il va falloir d'abord régler d'autres... Enfin, il y aura d'autres ajustements à faire pour avoir une sexualité épanouie. Voilà. Et pour les femmes qui viennent me consulter, notamment pour celles qui sont atteintes d'endométriose, bien souvent, il y a ça aussi, ce cheminement on va contourner un peu justement l'aspect
médical.
Médical et vraiment organique pour retrouver d'autres plaisirs, d'autres sensations qui sont pas forcément sexuelles ou érotiques, mais qui vont en fait restimuler, recréer des chemins de plaisir pour après revenir à la sexualité. Voilà. Mais du coup, voilà, ça demande un accompagnement où il faut du temps, de l'écoute.
En fait, c'est autant de la psychologie que de l'accompagnement au quotidien, c'est ça ou...
Oui, avec des approches
propres à la sexologie.
Variées. Ouais. Oui, propres à la sexologie. Et puis, tu vois, je vais utiliser aussi des choses que j'ai apprises un peu en sophrologie, en méditation, en yoga. Enfin, voilà, je vais essayer, en fait, d'enrichir...
La boîte à outils de chez couple.
Exactement, mm-hmm. Exactement. Par les différentes lectures, proposer des supports différents aussi. Par exemple, à l'issue d'un rendez-vous, je vais toujours donner des petits exercices entre guillemets à faire, et je vais essayer de m'adapter à chaque individu, savoir quelles sont ses préférences pour que ce soit efficace. Mm-hmm. Et parce que bah, quand on rentre chez soi avec des petites choses à faire, il faut qu'on ait envie de le faire, vraiment. Donc il faut vraiment trouver, comme tu dis, le bon outil dans la boîte à outils pour aider au mieux la personne.
La question la plus fréquente qu'on a reçue de nos auditrices, notamment, quand on a parlé donc, de la préparation de cet épisode, c'est ce que tu disais, cette routine des rapports programmés quand on est en essai bébé, en insémination, et puis des fois aussi en FIV aussi. En FIV, on dit qu'il faut quand même avoir le plus de rapports possible autour de l'ovulation. Comment est-ce que, enfin, est-ce que tu as des pistes à, sans nous faire toute une consultation, tu vois, mais des suggestions, en fait, de choses à envisager pour essayer de casser cette routine des rapports programmés quand on est en essai bébé?
On peut envisager les rapports qui ne seront non programmés de manière complètement différente, c'est-à-dire de sortir vraiment de la sexualité, par exemple pénétrative, et de s'accorder des moments plutôt très sensuels ou très érotiques autour du massage, autour des caresses, tout ce qu'on va considérer comme le slow sex, c'est-à-dire vraiment prendre son temps et être plus dans le ressenti. Maximiser le ressenti des baisers, des caresses, des odeurs, plutôt que de la performance. Parce que dans le rapport sexuel programmé, il faut qu'il y ait pénétration et éjaculation, puisqu'on ce qu'on souhaite obtenir, c'est une fécondation. Donc il faut qu'il y ait toutes ces étapes-là. Or, du coup, quand on est dans la sexualité plaisir, on peut se dire aussi qu'on peut faire autre chose que ça, pour justement se démarquer les rapports sexuels programmés d'avec les rapports plaisir, et donc les câlins plaisir, et voilà, passer par plus ouais. de ressenti, voilà, plus de plaisir, et prendre son temps, et c'est ok justement si on fait pas de pénétration, parce que ça va ça va changer en fait.
L'objectif n'est pas le même.
Exactement, l'objectif n'est pas le même. Donc vraiment se focus sur le plaisir, et même si c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, même si par exemple on n'a pas beaucoup de temps devant soi, pour moi je trouve que c'est beaucoup plus important de valoriser peut-être un câlin, une étreinte, des caresses sur 10 minutes, un quart d'heure, même avant de se coucher, même s'il est tard, plutôt que de se dire bon, on a 20 minutes, on va essayer de faire quelque chose de performant. Voilà, en fait, c'est contre-productif quand on part sur cet objectif-là. Donc, et puis après, de manière classique, ce qu'on dit aussi souvent, s'accorder le plus souvent des moments à deux où on ne va pas parler de ça aussi, où on va à un vrai rendez-vous. Voilà, dîner au restaurant, voilà, une date exactement, où on va essayer de faire autre chose que de se focaliser là-dessus, et s'accorder des moments en individuel aussi. Ouais. Parce que justement, comme ce parcours, c'est en couple pour avoir un bébé, c'est important aussi de se retrouver soi-même, faire une activité qui nous convienne, ou même ne rien faire, mais ne rien faire seul. Des fois, c'est important aussi de se retrouver pour se ressourcer Et voilà, il y a des choses qui peuvent aider, la méditation, effectivement, la sophrologie, le yoga, si on aime ça, la danse, quelque chose qui va nous permettre de se retrouver.
Ouais, de retrouver son individualité au sein du couple aussi.
Exactement, puisque pour former un couple, c'est deux individus qui vont créer une troisième entité qui est le couple. Voilà.
Super. Est-ce que, selon toi, de ton expérience personnelle, puisque tu es passée par la PMA aussi, et puis de ton expérience de professionnelle qui accompagne ces patientes, est-ce qu'il faudrait qu'on soit prévenu de faire attention peut-être à notre libido, à notre intimité, que tout ça, ça va être un peu mis à mal par la PMA, ou enfin, est-ce que tu penses que l'accompagnement et la enfin, je sais pas si on peut parler de prévention, mais l'éducation peut-être sur le sujet devrait peut-être avoir lieu plus en amont?
Oui. Oui, vraiment. Et même, j'ai envie de dire, pas que pour la PMA, mais encore plus quand c'est comme ça. Mais de manière générale, on ne prête pas assez attention à la sexualité, le bien-être sexuel des personnes. Or, c'est un vrai paramètre de bonne santé, dans le sens, pas santé purement d'un point de vue médical, mais un bon équilibre de vie. Et donc, c'est des questions même qu'on devrait nous poser quand on va voir le médecin généraliste ou quand on fait un check-up. Et sinon, comment ça va de ce côté-là, quoi? Est-ce que, justement, vous avez de la libido, du plaisir, des envies? Est-ce que ça se passe bien? Il devrait y avoir ce paramètre qui devrait être pris en compte, qui permette aussi à la personne en face, du coup, de se poser ces questions-là. Okay. Parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui, du coup, font abstraction et se disent, bah tant pis, oui, effectivement, c'est pas super super, mais bon, voilà, on n'en parle pas. Ouais. Exactement, et puis, on n'a pas le temps, on est pris dans le tourbillon du quotidien, etc., et c'est toujours relégué, effectivement, à la dernière place. Et c'est un peu comme ça, après, qu'on s'oublie, et soi-même, et dans son couple. Et encore plus dans la PMA, puisqu'effectivement, on a ce rapport à la sexualité qui est ambigu, parce qu'à la fois, il va falloir être productif et programmer des rapports sexuels, et en même temps, justement, ça enlève tout le côté, comme je disais tout à l'heure, festif, récréatif et de plaisir de la sexualité. Donc, peut-être faire un peu plus de prévention, en tout cas, oui, prévenir, ou d'avoir ce petit point de dire préservez-vous, préservez votre intimité, créez-vous une bulle de douceur aussi. Et pour que ça fonctionne, je crois aussi qu'il faut justement être bienveillant avec soi-même le plus possible.
Ouais.
Et pas que être dans la performance médicale. Voilà, c'est pas parce qu'on va exactement, c'est pas parce qu'on va tout bien faire le protocole, etc., que ça va fonctionner d'office. Il y a ce paramètre-là aussi qu'il faut lâcher prise, être bien dans son corps, et ça va passer justement par cette intimité-là qu'on peut avoir avec soi-même déjà. Ouais. Être bienveillant, je pense notamment aux femmes, parce que les examens sont très invasifs. Combien de temps on passe allongé, les cuisses écartées, le sexe nu devant des gens qu'on ne connaît pas. C'est hyper difficile après de se dire qu'il faut recréer cette scène, mais pour avoir du plaisir. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'introspection personnelle qu'il faut réussir à faire pour pouvoir dissocier justement à ce moment-là son corps, vu comme quelque chose de médical et d'organique, de « j'ai mon corps de femme qui est aussi érogène, et quand on me touche à cet endroit-là, j'ai envie que ça me donne du plaisir, et pas de penser au spéculum qu'on m'a inséré il y a deux jours. »
Et alors, justement, tu vois, je comprends donc que les côtés patients, donc il y a ce cheminement à faire, et puis je crois que enfin les patients en sont de plus en plus conscients. Mais comment est-ce que tu expliques ce tabou, peut-être côté médical, en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que... Parce que je veux dire, on a quand même, pardonne-moi l'expression, ils ont quand même les mains dedans, mais ils sont incapables d'en parler, enfin, tu vois. Comment t'expliques ça?
Alors, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, quand je me suis lancée dans cette reconversion, j'ai énormément questionné le corps médical et paramédical autour de moi. Donc d'abord, mon équipe de soignants, entre guillemets, c'est-à-dire gynéco, ostéopathe, kiné, même pharmacien, en leur posant des questions sur quand vous avez des femmes qui vous posent des questions sur leur sexualité, vers qui vous les envoyez? Et je pense que 100% des personnes m'ont répondu « on ne sait pas ». Donc j'aurais dit « mais dang. Vous n'allez... » Voilà, vous ne les envoyez pas vers des sexologues, c'est qu'on n'en connaît pas trop, on ne sait pas. Oui, peut-être, effectivement, il faudrait les orienter sur des sexologues. Ok, bon, donc... C'est pas que cette problématique ne les intéressait pas, parce que j'ai aussi eu tout le monde... Enfin, quand j'ai expliqué après mon projet, là aussi, j'ai eu que des bons retours en me disant « Mais oui, c'est ça qu'il faut. » Effectivement, des personnes qui soient spécialisées dans ces accompagnements-là pour que les femmes se sentent à la fois qu'il y ait un temps d'écoute, qu'il y ait de la compréhension et qu'il y ait aussi des outils pour les aider à passer ces moments-là. Ça peut être une reprise de la sexualité aussi en postpartum. Je posais la question à une kiné que je voyais régulièrement et qui faisait de la rééducation du périnée. Et je lui dis, mais comment vous parlez de la sexualité avec vos patientes? Et elle me disait, je leur dis si le périnée est OK ou pas. Mais après, effectivement, on parle très peu, finalement, au-delà de la technique, de plaisir, de libido, d'envie, etc. Donc, on sent que même les soignants, en fait, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas le temps.
Ouais.
Voilà, c'est de la technique, des super techniciens, voilà, du corps. Mmh. Du coup, par contre, quand je les ai sollicités, je pense que là aussi, 100% m'ont dit, quand vous avez fini votre formation, vous revenez vers nous, vous nous apportez votre carte, on aura des... ouais. Voilà, donc...
Et comme quoi, il y a un vrai besoin, quoi.
Voilà, exactement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il y a un vrai besoin. Mm-hmm. Il y a un vrai besoin. Et après, chacun son métier. Quand on est médecin, effectivement, on n'est pas sexologue. Mm-hmm. Par contre, ce qui est bien, c'est après de leur dire, vous voyez, par contre, il y a d'autres personnes qui peuvent s'en charger. Juste pensez-y, faites passer l'information si vous sentez que la personne a besoin.
Bien sûr.
Parce que de soi-même, c'est pas évident de faire la démarche non plus.
Ouais. J'aimerais donc revenir un tout petit peu en arrière sur... plus spécifiquement la sexualité et l'endométriose. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus d'informations sur comment est-ce que la sexualité des patientes souffrantes d'endométriose peut être affectée et comment est-ce que justement toi tu peux leur apporter un accompagnement, pardon, très personnalisé là-dessus. Et en fait, je te parle de ça parce que je sais aussi que tu fais des ateliers, que tu es bénévole chez Endo & Co, Femmes Endo & Co, pardon, l'association.
Oui, c'est ça.
Et que tu proposes aussi des séances sous forme d'ateliers, en couple, individuel. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu tout ça?
Alors, du coup, comme je me suis présentée, j'ai expliqué aussi que j'étais atteinte d'endométriose et que c'est effectivement une pathologie qui va avoir un impact sur la sexualité, c'est pas une fatalité, mais qui peut avoir un impact sur la sexualité à différents niveaux, c'est-à-dire que suivant où sont positionnés les nodules, les adhérences, les lésions d'endométriose, on peut ressentir des douleurs. Alors, soit par exemple des douleurs de contact, des douleurs à la pénétration. Le plus souvent, c'est des douleurs à la pénétration, notamment les pénétrations en profondeur. Ça peut aussi générer des douleurs après avoir eu un orgasme, parce que l'orgasme va contracter fortement le vagin, l'utérus, les ovaires, etc. Et là aussi, avec les adhérences, en fait, ça va diffuser une vague de douleur dans tout le pelvien, donc ça peut être très très douloureux. Et puis, l'endométriose, c'est une pathologie qui est chronique et qui engendre du coup une fatigue chronique également. Et du coup, on peut être assez fatigué régulièrement, manquer d'énergie, donc la libido peut en souffrir aussi. Les traitements aujourd'hui pour l'endométriose, ce sont pas des traitements curatifs, mais ce sont des traitements pour masquer justement les symptômes de l'endométriose, et ce sont des traitements hormonaux, donc qui vont avoir un impact sur la libido aussi, qui peuvent avoir un impact aussi notamment par exemple sur la sécheresse vaginale, qui peuvent avoir un impact sur le poids. On peut prendre beaucoup de poids en ayant des traitements hormonaux assez forts. Et tout ça fait qu'on va pas bien se sentir dans son corps, cumulé avec ce que je disais tout à l'heure, tous les examens aussi gynéco, qui vont faire qu'on va un peu se déconnecter de son corps comme zone érogène, comme zone de plaisir, et ne le voir que sous l'aspect médical et organique et comme un corps malade, et plus comme un corps qui donne du plaisir. Tout ça va contribuer malheureusement à avoir peut-être une sexualité en berne, une sexualité qui sera plus du tout dans la jouissance, mais dans la douleur ou dans l'appréhension de la douleur. Donc voilà, donc j'essaye d'accompagner ces femmes. Donc pareil, je prends en compte leur parcours à chacune, leur histoire de la maladie, leur histoire de leur sexualité aussi, et de voir comment on peut les reconnecter justement à leur corps, à refaire que ce corps devienne quelque chose de plaisant, d'érotique, d'érogène, de doux, et de le dissocier de ce corps malade. Donc voilà, on va trouver des outils différents pour chacune. Je fais effectivement, comme tu l'as souligné, donc des ateliers par exemple en visio pour l'association Femmes Endo & Co, donc qui est une association qui est spécialisée dans les femmes atteintes d'endométriose. Je reçois des femmes évidemment en cabinet pareil qui ont cette demande-là. Ça peut être aussi en couple. Quand le conjoint accompagne, c'est toujours plus productif parce que du coup, il va être aussi acteur dans le bien-être de sa compagne et dans l'objectif d'améliorer leur intimité à tous les deux. Et ça, c'est vraiment important quand les conjoints, quand le ou la partenaire est présente. Ouais, évidemment, c'est hyper important.
Dag, ok. Écoute, c'est vraiment un épisode, une mine d'or. Merci beaucoup pour tous ces conseils, c'est vraiment super intéressant. Si nos auditeurs et auditrices veulent continuer la conversation avec toi, est-ce que tu as un site internet, un compte Instagram, par exemple, sur lequel on peut te retrouver?
Oui, alors notamment sur Instagram, donc j'ai un compte qui s'appelle Sexologue Thérapeute, où je mets des posts ou des stories en rapport avec évidemment tout ce qui concerne la sexualité, notamment le plaisir féminin et l'endométriose. Je réponds à tous les messages privés. Et puis après, voilà, je consulte aussi en visio. Donc, si vous n'êtes pas de Bordeaux, mais que vous souhaitez avoir un suivi, il n'y a aucun problème. Je l'ai fait pendant le confinement, ça s'est super bien passé. Donc,
du coup, t'es élargie.
Voilà, j'ai expérimenté, c'était tout aussi efficace.
Okay. Super, et ben écoute, je n'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Un immense merci d'avoir passé cette petite heure avec moi. J'espère que nos auditeurs et auditrices auront pu apprendre plein de choses. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et puis, je te souhaite donc une excellente continuation. Je te dis à très bientôt, Céline.
Je te remercie pour ton accueil et je suis ravie d'avoir enregistrer cet épisode avec toi, et je suis ravie aussi si ça peut aider certaines et certains à aller mieux dans leur intimité, dans leur sexualité. C'est le but.
Salut, merci.
Bonne journée.
Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un immense merci à Céline d'avoir pris le temps et d'avoir eu la bienveillance qu'elle a eue pour répondre à nos questions et pour se livrer à nous sur son parcours à elle pour devenir maman. Un immense merci à vous d'être toujours là à la fin de cet épisode. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode et des questions qu'il soulève, rendez-vous sur Instagram, retrouvez la vignette de l'épisode et venez en discuter avec la communauté. C'est généralement par là que ça se passe. Si vous êtes resté jusqu'au bout, il y a de grandes chances que vous ayez envie d'aider le podcast à se développer et je vous en remercie. Si c'est le cas, deux manières vraiment de nous aider. La première, c'est aller sur les réseaux sociaux, partager le podcast en story sur vos posts. N'hésitez pas, vous taguez le podcast et c'est vraiment un super moyen de nous aider et puis finalement d'aider la communauté à trouver, à découvrir cet outil en fait qui est proposé par le podcast pour obtenir du soutien, se sentir un petit peu moins seul notamment. Et puis si vous avez Apple, que ce soit sur votre Mac ou sur votre téléphone par exemple, rendez-vous sur Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un commentaire. C'est vraiment un super moyen de nous aider à nous développer, ça aide vraiment. Et puis, on me dit que c'est l'heure, qu'il faut peut-être que je vous laisse un petit peu tranquille. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie d'être présent chaque semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.